maintenant sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence.
L'ivresse des mots, une rencontre entre un écrivain et un vigneron. Baptiste Beaulieu, écrivain, médecin, humaniste, et Fabien Roufiac, amoureux des vignes à taille humaine. On écoute leurs échanges qui ont lieu le dimanche 15 janvier 2023 à Fessac, près de la Bastille de Lévis, dans le contexte L'ivresse des mots, des rencontres littéraires et des rencontres de vignerons. Bonne écoute sur Radio Albitzes.
Alors je vous salue, bonjour à tous, mesdames et messieurs, plus fort.
Oui, oui.
Plus fort. Merci de venir à Fessac, petite commune. Nous sommes une commune située sur la rive droite de Butarn, vous avez vu.
Serge, un peu plus fort, s'il te plaît.
Plus fort encore.
Oui.
D'accord. Voilà. C'est trop bien. Donc nous sommes une commune de 376 habitants. Donc, la population évolue très peu, mais ça nous va très bien. Nous appartenons au grand territoire de la communauté d'Aglo, que vous connaissez, Gaillard-Boyer. Et nous accueillons dans cette salle, qui est la grande salle haute, que nous appelons salle haute de la mairie. Et c'est M. Partez qui a organisé le sous-sol, le rez-de-chaussée et la salle haute, qui est magnifique pour nous accueillir. Donc des pierres apparentes, un lieu idéal pour se ressourcer, pour écouter, pour lire, pour se reposer et surtout se rencontrer comme on le fait aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un bon moment avec nos collaboratrices de la communauté d'Aglo chargées de communication et ensuite je laisserai aux participants le soin de se présenter.
Voilà.
Merci. Plaisir.
Merci.
Bonjour à tous, moi aussi je suis sincère, je suis ravi, vraiment très ravi de vous retrouver. Je vais commencer par présenter la personne qui est à ma gauche, même si vous la connaissez tous, il s'agit de Baptiste Beaulieu. C'est l'antithèse de l'écrivain retiré dans sa tour d'ivoire. Je te remercie. Non, mais c'est vrai, vraiment, Baptiste, je te remercie d'être là. On regrette trop souvent que les écrivains sont des êtres parisianistes ou élitistes. Baptiste, est-ce que c'est dû à sa fonction de médecin, sa vocation de médecin, aussi grande que sa vocation d'écrivain? Est-ce que c'est dû à ça? Mais en tout cas, je le dis avec émotion, mais je le dis très sincèrement, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais les gens. Vous pouvez vous en rendre compte à travers ses livres, livres qui sont là aussi, qui pourront être dédicacés grâce à la librairie L'Étoile Scintillante. Grâce à ces livres qui sont, je vous donne quelques titres. Le tout premier, c'était « Alors voilà les mille une vie des urgences ». Puisque Baptiste s'est fait connaître d'abord à travers un blog dans lequel il faisait part de son quotidien d'urgentiste. Il a reçu d'ailleurs le prix Alexandre Varnet en 2013 pour ce blog qui comptait plus de 8 millions de visiteurs. Oui, on parle en millions avec Baptiste. Et en milliers, par exemple, pour son dernier, on y reviendra. Donc, ancien interne à l'hôpital d'Auch, il a exercé la médecine, il exerce toujours la médecine à Toulouse. Il a reçu le prix méditerranéen, voilà, deuxième roman pour « Alors vous ne serez plus jamais triste », le grand prix de l'Académie française de pharmacie pour « La balade de l'enfant gris ». Il a toutes les histoires d'amour du monde, celles qu'il attendait, que vous avez là. Il s'est ensuite, toujours en parallèle, j'ai l'impression que l'écriture sous toutes ses formes, ça, c'est juste une seule discipline. Il a donc écrit des recueils de poésie, dont le dernier s'intitule, vous l'avez là aussi, et très franchement, très sincèrement, je vous le recommande énormément. La joie et le reste. Avant, il y avait N'ayez pas peur jamais. Est-ce que j'oublie Oui, il y a eu des adaptations en bande dessinée. Il y a eu des adaptations théâtrales avec Arthur Junior. Et le tout dernier livre, qui obtient un succès fou, Baptiste me disait, je comprends pas, moi je comprends. Parce que vraiment, il parle aux gens, c'est un album, on pourrait dire un album jeunesse. Et là encore, croyez-moi, très très sincèrement, pourtant je ne suis pas un spécialiste de livres jeunesse, je ne l'en lis jamais, mais Jean-Baptiste, je l'ai lu, et c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Quoi. Et de notre corps, enfin, là je suis bavard, mais c'est Baptiste qui nous en parlera bien mieux que je ne le saurais le faire. Et à propos de corps, dans le corps, il faut y mettre parfois du carburant. Et du bon carburant. Fabien, je ne le connais pas, mais on a décidé de se tutoyer, parce qu'on a des points communs, on aime les bonnes choses, déjà. Alors, tu fais pas. Enfin, le domaine, eh ben, il est là. Le domaine Alcoudère. La bastide de Venise, c'est ça ? Là aussi, quelques mots de présentation, et puis c'est surtout lui qui parlera. 11 hectares de vignes, si ça n'a pas bougé. Monsieur le maire m'a dit, surtout insister, c'est bio. On est dans une démarche bio, et il m'a dit, il vous expliquera sa philosophie. J'aime bien quand les vignerons ont une philosophie. Et pour commencer, ben vous avez le micro là, ou tu as le micro là. La question rituelle du dimanche matin, c'est qu'est-ce qu'on boit ?
Alors, 2021, comme vous avez tous
signé. Ah oui, bonne année au fait.
Dans les informations, c'était une année où il avait pas mal gelé sur les vignes, donc je n'ai pas fait les assemblages rituels. Là, on est sur un assemblage de Mozac et Sauvignon. Le Mozac, on aura ses arômes de pommes et une légère salinité parce que la parcelle est sur des affleurements calcaires. Et le Sauvignon, c'est ce côté un peu citronné qu'on a au départ sur les notes d'agrumes. On l'a surtout amené en début de bouche et le côté iodé et pommes fraîches bien infinies. Voilà, du Mozac.
Alors, gardez le micro. J'ai déjà deux questions. La première, tout ce que tu viens de décrire, la salinité, etc., est-ce que tu le sais en amont ? Est-ce que tu dis, je vais faire un vin, eh bien, à l'attaque, il y aura ça, puis ensuite, est-ce que c'est aussi précis que ça quand tu te vas travailler ?
En fait, quand on fait les vins, on vinifie les cépages et quand on peut les parcelles séparément. Ensuite, on va avoir plusieurs cuves. Et pour avoir une trame pour pas trop perturber les gens entre les différents millésimes, on va faire des assemblages. Alors il y a des années où le Sauvignon va être plus fort que d'habitude, donc on en mettra un peu moins pour essayer d'avoir toujours une même une continuité, si vous voulez, dans les veines. Ce qui est très difficile quand on est indépendant, parce qu'on a, en fait, c'est là qu'on se différencie un peu par les vins entre ça et nous et les vins industriels. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de différences sur les millésimes. Parce qu'on a moins de parcelles, donc on a moins de capacité de sélection pour avoir la même trame de vin en finale.
Mais moi, j'y vois plutôt un avantage. C'est plus de
oui,
c'est surprenant.
Par contre, voilà, vous pouvez être surpris. Il y a des années qui vont être excellentes. En général, quand on est indépendant aussi, on bichonne nos vins, en fait. On suit un peu plus toutes les cuves et on n'a pas de mauvaises surprises en général.
Ah ouais. Voilà.
On en a toujours de bon.
La deuxième question, c'était concernant les cépages. Tu as parlé de Mozac et de Sauvignon. Je commence à comprendre, grâce à l'ivresse des mots, comment ça se passe. Si je ne me trompe pas, le Mozac, c'est d'ici, mais pas le Sauvignon.
Exactement. Le Sauvignon, en fait, ici, on avait des cépages originels, on va dire. Encore, le Mozac est assez aromatique. Mais on a un cépage qui s'appelle le Vaune de l'œil, qui si on n'a pas des sols particuliers, va avoir l'inconvénient d'avoir un côté un peu mou, pour un blanc sec surtout.
Ouais.
C'est un cépage qui va très bien pour faire des coreux ou des vendanges tardives, mais par contre, en vin sec, il est un peu mou. Donc en fait, dans les années 70-80, on a intégré à l'appellation Gaillac le cépage Sauvignon, qui va amener de l'acidité et de la fraîcheur.
Le regard du médecin sur les plaisirs de la vie.
Il y a une différence entre vivre et exister. Vivre, n'importe quel... dès qu'il y a un... c'est la biologie, quoi. Une bactérie, elle vit. Un animal peut vivre, un homme vit. Mais l'existence, c'est quelque chose de très particulier. Et l'existence sans le plaisir, c'est juste, du coup, vivre. Voilà. Et je pense que un homme est un animal social et qu'il a besoin de symboles, ce qui permet de faire une société. Et le vin en fait partie. Mais enfin, vous savez, on me dit toujours c'est la dose qui fait le poison. C'est les gens et leur usage, leur mésusage du vin qui. Les vignerons sont pareils pour ça. Après, chacun peut l'utiliser comme un moyen de faire société et vivre des bons moments. Donc de faire existence, et puis d'autres peuvent l'utiliser pour se faire du mal. Mais comme je vous dis, je suis venu en train de commencer ce matin, donc je vais déguster le vin. Et puis je vais laisser le médecin répondre.
De toute façon, comme tu viens de le dire, le médecin peut aussi vivre, exister pleinement.
Moi je suis très mal placé pour en tant que médecin. Déjà, je fume un petit peu. Je me ronge les ongles.
Dès
que je traite, je me range les dents, j'adore manger. Donc je serais très mal placé. Et du coup, c'est vrai que la position du médecin est parfois un petit peu contradictoire. En tout cas, on est en pleine dissonance, parce qu'on explique aux gens comment faire attention à eux. Et puis le soir, dès qu'ils sont partis, on s'allume la petite. Moi, je connais très peu de médecins qui ne fument pas.
La plupart
des médecins que je connais se fument comme des pompiers.
Ah ouais.
Voilà. Après, peut-être parce qu'on a de bons amis pneumologues et qu'on dit qu'ils nous sortiront d'affaires. Il faudra rendre les clés et ils seront là pour nous aider.
Vous écoutez toujours la conférence rencontre L'ivresse des mots avec Jean-Baptiste Beaulieu, écrivain humaniste, et Fabien Roufiac, vigneron à taille humaine.
Fabien, la question de la vocation maintenant qui se pose à chaque livresse des mots, est-ce que tu fais partie de ces vignerons qui n'ont pas pu faire autrement parce qu'il y avait la famille au-dessus et qu'il fallait assurer la lignée, ou est-ce que c'est une vocation complètement indépendante de l'hérédité?
Alors, pas du tout, mais j'ai peur d'être long.
on a tout notre temps.
Je suis issu d'une famille rurale, on va dire. Ma mère m'a élevé à Toulouse, exactement. Mais le week-end, je revenais chez mes grands-parents qui habitaient à la bastide de l'église, à côté. Et depuis toujours, j'ai voulu faire un paysan. Depuis toujours.
Paysan, c'est le mot.
C'est le mot. Alors, pas forcément dans les vignes, mais travailler la terre. Ça, c'est depuis ma tendre enfance.
Et ça s'explique ou pas là, c'est...
J'aime bien être dehors, j'aime bien la nature, voilà, tout simplement.
Donc, quand tu dis ça, on a l'impression que c'est une sinécure. Je me balade.
Mais il y a un peu de ça, mais vous savez, j'apprécie le matin quand je vais tailler, les levées de jour, le soir aussi, justement, j'adore en fait l'hiver, ce que beaucoup de gens n'aiment pas, moi ce temps-là, ça me plaît. J'adore prendre le temps, surtout le matin. Après, on a moins le temps de divaguer parce que les occupations et les préoccupations l'emportent. Mais le crépuscule ou le lever de soleil, je trouve ça magnifique.
Et à partir du moment où tu as décidé, donc très jeune, j'ai bien compris, je serai paysan. Cette vocation de... Enfin, ce savoir de vigneron, comment tu l'as acquis?
Alors, ensuite, Donc j'ai fait des études agricoles, mais en production végétale, ce qui correspond à céréalier. Mais après je suis parti travailler sur des fermes expérimentales en production de semences. Et au final, en 98, je me suis installé sur des vignes. Alors j'avais un tonton qui avait repris la ferme familiale. Et il m'a aidé à m'installer en fait en me mettant à disposition son matériel. Donc je me suis installé sur des fermages. Et ensuite j'ai acheté un petit lot de vignes. Puis en 2003, il y a eu une crise viticole avec beaucoup d'arrachages. Et j'étais coopérateur à l'époque. Et avec beaucoup d'arrachages, donc donc une crise financière qui en découle. Et du coup, je suis parti travailler ailleurs sur d'autres domaines pendant une dizaine d'années. Et c'est là, en fait, que j'ai fait mes gammes en tant que vigneron. En fait. Et donc, j'ai fait trois domaines différents, trois postes différents. Chez des vignerons voisins, un peu plus loin sur l'île sur Tarn, en fait. Et donc, fort de cette expérience, ensuite, Monsieur Bousquet, Michel Bousquet, à qui j'étais un grand hommage, il est décédé le mois dernier, qui a arrêté son exploitation, c'était une petite ferme de 4 hectares de vignes, avec une cave particulière, m'a demandé si je voulais reprendre. Donc j'ai repris ce domaine en 2016.
D'accord.
Et je me suis installé.
À Coudet, ça, c'est le Coudet.
C'est le lieu dit, voilà, c'est le coude de la... Alors, soit c'est le coude de la colline, mais il y a une deuxième signification aussi qui est plutôt avéronnaise, et qui est le Coudet, c'était un endroit où on faisait pâturer les bestiaux, où il y avait des arbres fruitiers, en fait. On y mettait des oies dessous, les quatre amis, quand il y avait les animaux de la ferme.
Voilà. Baptiste, on évoquera aussi ta vocation d'auteur et de médecin, mais je voudrais aborder un thème, celui du corps. Parce qu'effectivement, tu as dit tout de suite, tu as dit, on a l'impression que c'est une sinécure, donc tu as déjà en tête, tu avais l'effort physique que nécessite le statut de vigneron. Et le corps, effectivement, j'imagine, c'est une certitude à travers ton métier que tu as fait. Et tu as voulu évoquer ce que dit le corps des gens dans ce dernier album. C'était ça le déclic?
Pour rebondir sur ce qu'il a dit, très bien, parce qu'il ne le dit pas, mais moi je le sens en tant que médecin. C'est-à-dire que moi je suis assis toute la journée, je vois des gens venir me parler, j'essaie de les accompagner. Je ne dis pas de les soigner parce que les gens se soignent tout seuls, mais je les écoute, je prescris ce que je pense être le meilleur pour la pathologie qu'ils présentent. Mais en tant que médecin, j'ai 7 ans d'espérance de vie en plus que Fabien, par exemple, dans la gauche.
Ah oui.
Ça, c'est démontré. Je dis oui, j'aime bien me mettre dehors, me promener, oui, mais enfin, c'est que ça. Tu vois, enfin, nous, on a des statistiques qui montrent quand même que les métiers comme les miens, on est plutôt protégés, hein, voilà, c'est pas des métiers physiques. On a 7 ans d'espérance de vie en plus que des métiers comme les vôtres, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas une sinécure,
non, parce que ça, fait.
Ça se paye à la sortie. Moi, tout ce que j'ai voulu dans cet album, à la base, lorsque j'étais étudiant en médecine, il y avait un patient qu'on avait hospitalisé et qui avait une énorme cicatrice sur la joue, et une vieille cicatrice, c'était un vieux monsieur. Et tout le monde dans le service, vous savez comment on est, c'est des petits services, voilà, et on voulait. On se dit, mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, cette cicatrice, c'est quoi, voilà. Et personne n'osait aller lui demander, alors que c'était un monsieur très âgé, je pense qu'il avait fait, enfin, il avait opéré une résilience par depuis de longues années. Et un jour, je rentre dans la chambre du patient, et en faisant mon interrogatoire, mon examen clinique, et je lui demande, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Ah, ça, c'est quand j'avais 7 ans, mon oncle était coiffeur, et j'ai couru dans son salon de coiffure pendant qu'il était en train d'essayer son rasoir sur une ceinture, et je suis passé au moment où il baissait comme ça, ça m'a taillé de la joue, mais il me disait, ça ne m'a pas empêché d'avoir rencontré ma femme, et de lui faire 4 enfants, même. Et je me souviens de cette femme, qui était jolie, quoi, jolie tout plein. Et en fait, ce qui m'avait ému, c'est qu'il attendait qu'une chose, c'est qu'on lui pose la question pour pouvoir raconter, parce que c'était son histoire, et qu'il n'en avait absolument pas honte. Et dans la chambre à côté, on avait une patiente qui était peut-être un peu plus âgée que lui, et qui tous les matins mettait un peu de fond de teint au poignet, parce qu'elle avait, vous savez, le tatouage des gens qui sont... une série de chiffres comme ça, dont elle avait honte, a priori, ou en tout cas qu'elle voulait cacher. Et tous les matins, elle mettait ce fond de teint sur... c'était une rescapée de l'écran, de la mort. Et du coup, je trouvais ça très étrange, c'est la coexistence comme ça, deux chambres côte à côte, comme ça, d'un monsieur qui n'a absolument pas honte, et pourquoi aurait-il honte de cette histoire, et qu'il attendait qu'une seule chose de la raconter. Et à côté, une dame qui n'aurait aucune raison d'avoir honte de ce qu'elle a subi, et qui, pourtant, pendant des années, tous les matins, elle s'ingéniait comme ça à cacher cette trace-là, quoi. Et je me disais, c'est cette coexistence-là m'avait perturbé déjà à l'époque. Et puis, en tant que médecin, vous savez, quand on voit 25 patients par jour, c'est 25 histoires de vie qui sont posées sur notre bureau, quoi. Et les histoires de vie, c'est toujours des histoires de corps. On ne va pas sans un corps, hein. C'est des sauts qui nous accompagnent jusqu'au bout. Et je pense qu'une fois qu'on connaît l'histoire de quelqu'un, qu'on connaît l'histoire de son corps, ça devient beaucoup plus difficile soit de le juger ou de le jauger si on est adulte, soit de se moquer si on est enfant. Et c'est étrange qu'on vive dans une société où on t'aide à ce point-là, alors qu'on a tous, je dirais, il n'y a pas une seule personne dans cette pièce qui n'a pas une histoire un peu compliquée avec une partie de son corps, ou, j'en sais rien, ça peut être de l'eczéma, ou des problèmes avec la nourriture, ou des problèmes de santé mentale, si on veut. Mais il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas une histoire particulière à raconter. Et cette intimité-là qui porte tellement mal son nom, parce que rien n'est plus extime que l'intime. Et pourtant, on le tait, on ne le partage pas. Et peut-être qu'on se sentirait beaucoup moins seul si on s'échangeait un peu comme des cartes panini. Vous savez, quand on est dit, je te donne ton histoire, tu me donnes la mienne. Voilà. Donc, on se sentirait moins seul, je crois.
Et on découvre donc diverses histoires de corps. Mais ça s'adresse aux enfants, dès le départ, tu t'es dit, est-ce que c'est une commande, ça peut arriver, d'un éditeur qui te dit, voilà, je veux un album jeunesse de Baptiste, ou toi déjà, tu t'es dit, j'ai envie de m'adresser à aux jeunes.
Alors donc, j'ai la chance d'avoir suffisamment de succès pour pouvoir ne jamais avoir de commande, voilà, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, et personne ne m'a jamais tordu le bras pour me demander de dire. Ah oui, non, je ne supporterai pas. En fait, mon idée est venue tout simplement, c'est que ma nièce, elle a 16 ans maintenant, mais à l'époque, elle devait avoir 14 ans, qui a demandé à ma grande sœur, donc à sa mère, si elle pouvait avoir un compte Instagram. Et moi, ça m'avait un petit peu perturbé, parce que je sais à quel point les images de corps qu'on peut avoir maintenant sur les réseaux sociaux sont des images déformées, loin de la réalité. Déjà, on choisit la photo qu'on met, puis en plus, maintenant, vous savez, il y a des filtres qui permettent de modifier artificiellement la couleur, la forme. Il y a des études qui montrent à quel point l'arrivée des adolescents et des adolescentes sur les réseaux sociaux est suivie dans l'année qui suit leur arrivée d'une grosse détérioration de l'image de soi. Et donc, j'avais envie d'écrire sur ça, mais d'arriver un peu en amont, c'est-à-dire pas où c'est non, c'est trop tard, d'arriver au moment de la préadolescence, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans, et d'essayer de semer des petites graines comme ça, de rien du tout, mais qui pourraient peut-être, je sais pas, permettre aux futurs adultes et aux préadolescents de se sentir mieux dans ce moment un peu compliqué. Mais au final, là où j'étais très touché, c'est que toutes les dédicaces que je fais, il y a plus d'adultes que d'enfants. Il n'y a que des adultes, parfois il y a 2-3 enfants. Et c'est étonnant parce que c'est quand même à la base pour eux que j'avais écrit le livre. Mais il y a beaucoup d'adultes qui me disent à quel point l'album leur fait du bien maintenant, en fait.
Franchement, il est magnifique cet album. Fabien, restons sur le domaine du corps, parce que c'est exprimé à ce sujet. Quelle est toi ta vision des choses en ce qui concerne. Voilà, c'est un travail physique, c'est pas. Là, tu nous as présenté un côté agréable, le crépuscule, l'aurore, etc. Mais ça ne doit pas être facile tous les jours non plus.
Alors, oui, c'est pas facile tous les jours. Bon, j'ai un avantage, c'est que je ne suis pas très grand pour tailler la vigne, ça va bien. Après, j'approche, j'ai passé 50 ans, je commence à avoir des problèmes d'épaule, de Canal Carpien et compagnie, on passe outre. Mon cerveau me dit que tu as choisi ce métier et puis qu'il te plaît, et on serre un peu les dents, on fait un peu comme tout le monde, quoi. Et après, au niveau, mes craintes étaient plus grandes au niveau des pesticides et tout ça, et le passage en bio est une...
Développe. Pourquoi tu es passé en bio? Là aussi, je veux faire de la provoque pour faire comme tout le monde, pour faire l'air du temps, ou parce que vraiment ça correspondait à quelque chose qui te tenait à cœur?
Alors, je suis passé en bio parce que j'ai eu travailler avant de reprendre le domaine, déjà, sur un domaine bio. Donc j'ai vu que c'était possible. Mm-hmm. Qu'économiquement, ça, c'était possible. Et puis que ça passait, et même en vigne plutôt bien. Et ensuite, je suis passé en bio, surtout pour moi. C'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais c'est surtout pour moi. Maintenant, quand il y a une panne dans mon pulvérisateur, même si je mets toujours des protections, je ne mets pas des scaphandres comme je mettais. Ensuite, il faut savoir que toutes les, même si on a des cabines, si c'est vraiment mieux qu'au début de ma carrière où on traitait avec des tracteurs en plein vent, même si on a des cabines, ça passe toujours. Normalement, il faudrait mettre les protections même dans la cabine. Donc, on s'empoisonne en permanence. D'ailleurs, le souci des vignerons, c'est pas la mortalité par usure, comme je disais, de l'épaule ou enfin, de l'usure des jambes, de quoi que ce soit. C'est plutôt des cancers, quoi, en général.
Ah ouais.
Des leucémies. Il y a beaucoup de leucémies, de cancers du pancréas, du foie. Voilà. Et pas uniquement lié à l'alcool non plus.
Vous écoutez toujours la conférence rencontre L'ivresse des mots avec Jean-Baptiste Beaulieu, écrivain humaniste, et Fabien Roufiac, vigneron à taille humaine.
Est-ce que... Et du coup, tu m'as fait perdre ma question. Oui, si, je sais. Tu as fait état du temps qui passe, avec, voilà, tu as dit après 50 ans, etc. Mais est-ce qu'après 50 ans, on fait un meilleur vin que quand on en a 40 et encore mieux que quand on en a 30? Bref, est-ce qu'on évolue dans son travail, dans son talent?
Alors, on fait un meilleur vin. Pour moi, le vin, c'est surtout... ça. La base, c'est le raisin. Quand les raisins sont beaux, le vin, c'est très facile. Il n'y a qu'à laisser faire la nature. Tout est impeccable. Après, c'est les années un peu compliquées, comme 2021, le millésime que vous allez déguster, où là, il faut être hyper vigilant, ça peut vite tourner au vinaigre, comme on dit. Et donc, c'est beaucoup plus de travail, et je pense que dans des années comme ça, l'expérience sert beaucoup. Alors, je m'appuie personnellement, après j'ai des aides, j'ai une homologue qui vient, qui est assez âgée, donc qui a de l'expérience. Et ça m'aide beaucoup pour l'élaboration, surtout dans des millésimes compliqués comme l'année dernière.
Voilà. Même question, Baptiste. Est-ce qu'on évolue lorsqu'on est écrivain? Est-ce qu'on maîtrise mieux sa matière littéraire qu'il y a quelques années? Est-ce qu'il y a des bons millésimes et puis d'autres moins bons? Est-ce que, voilà, quel est le rapport à tes propres livres, si tu te retournes? Et est-ce que tu peux dire que tel livre était peut-être un peu moins réussi que tu l'aurais souhaité, et que, encore une fois, maintenant tu maîtrises les choses davantage?
Alors c'est très étrange l'écriture, parce que quand on écrit, on est obsédé. C'est vraiment une histoire qui nous obsède et qui va nous tenir en haleine, voilà, pendant un an, une année d'écriture. Et au moment où le livre sort, qui est assez le plus en parler, on ne peut plus le voir en peinture, on est déjà passé au prochain livre.
Oui,
voilà, donc on passe d'infidélité en infidélité, comme ça.
Ouais.
Et c'est toujours très particulier, parce que... je me dis, je vais me prendre 2-3 semaines de repos, voilà, parce que je me sentais vide d'histoire, j'avais plus rien, voilà. on a toujours peur, on se dit on n'a plus rien à raconter, et en général ça revient toujours. Et donc, j'étais à la terrasse d'un café, et d'un seul coup, voilà, j'ai un petit coup. Je commence à sentir dans le ventre comme ça, voilà, le besoin de raconter une nouvelle histoire, et elle n'est pas assez, très indéfinie. Et une nuit, donc je m'endors, et en rêvant, je rêve cette histoire d'amour, celle qui l'attendait, une histoire d'amour incroyable. Donc j'avais toute l'histoire, et je me réveille à 2-3 heures du matin. J'espère, oui, qu'on évolue de roman en roman, parce que enfin, ce serait terrible. Sinon, souvent, les gens me demandent par quel roman je dois commencer, mais souvent, je leur dis par le premier, parce que j'espère avoir gagné en maturité au niveau de l'écriture, avoir trouvé la voie.
Et parfois même on peut, m'ont dit certains écrivains, on peut aller trop loin. J'explique. Jacques Brel, quand il a abandonné la chanson, il a dit, il a expliqué, je devenais habile, trop habile, oui. Au détriment de
la spontanéité,
etc. Ça, c'est tu comprends ce genre de...
Le risque est de devenir un artisan du livre, c'est-à-dire un faiseur, quoi. Et ça, c'est toujours dangereux, et c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux jamais dire à mon éditeur de quoi va parler le prochain livre, parce que si j'ai envie de raconter une histoire, elle va s'imposer de toute manière, et je te dis, elle va devenir une obsession, et je ne pourrai pas raconter une autre histoire. Et je me dis, tant que je fonctionne comme ça, c'est que je ne suis pas un faiseur ou un artisan, en tout cas. C'est quelque chose de très mystérieux et un peu surnaturel quand on écrit, parce que quand j'étais enfant, je rêvais d'écrire, et j'entendais toujours le romancier dire « Ah, j'ai commencé à écrire, puis le personnage a pris le pas sur l'histoire, et c'est lui qui a raconté sa propre histoire », et je trouvais ça tellement cliché, parce qu'ils disent tout ça. Et puis quand on commence à écrire, on s'aperçoit qu'ils ont raison, et que c'est comme ça que ça marche, et que c'est aussi comme ça que l'enthousiasme, c'est merveilleux l'enthousiasme. Il n'y a rien de plus beau que l'enthousiasme en littérature. Quand on est plein d'allant comme ça, on sent que l'histoire se constitue dans notre tête et on veut l'écrire pas seulement pour les autres, mais d'abord pour soi, parce qu'elle s'impose à nous et qu'elle nous habite complètement, quoi.
Il n'empêche que quand on écrit, est-ce qu'on pense au lecteur, est-ce qu'on pense déjà à la réception du livre?
Je pourrais pas ne pas écrire. Si j'écris pas, je suis constipé. Non, c'est merveilleux l'écriture. On est à la fois, on choisit tout. C'est-à-dire, vous savez, un réalisateur, il va avoir un directeur de casting, plus un paysagiste, une accessoiriste qui va choisir les vêtements. Nous, on fait tout. On peut être tout dans le livre, on décide de tout. Et alors, est-ce qu'on pense au lecteur? Ça, c'est vrai. Une fois qu'on a écrit ce qu'on avait, en fait, ce qui nous a été imposé, par une forme de peut-être d'inspiration, tout simplement. Après, on revient sur le texte et on dit, ah tiens, là, je piégerai bien le lecteur en disant pas quelque chose. Et après, mais ça, c'est le jeu et c'est ça qui est enthousiasmant, c'est de se dire, ah, ils vont tomber dans le panneau, je vais bien les avoir. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'ils payent 17 euros. Hein. Non, mais voilà. Moi, je suis vraiment très, très critique aussi par rapport à une certaine forme d'intelligence parisienne qui va, il n'y a pas de manière polie de dire ça, qui va se rouler la nuit avec leur histoire de confinement à être tard ou ce genre de choses. Ça n'intéresse personne. J'ai rien contre la Sylvanie, mais j'ai pas envie de lire son confinement dans sa maison de campagne. Je crois que les gens, surtout avec la crise, quand ils payent 17 euros, c'est pour qu'on leur raconte une histoire. Qu'on leur parle d'eux ou qu'on leur parle des autres, mais pour qu'on leur parle de quelque chose. Voilà. Pas pour.
Et pour parler de toi, c'est un problème de fixer le prix de ton vin ou non, ça va de soi?
Alors, moi, non, ça a été un problème au départ, j'avoue. C'est un peu compliqué. Pour ma part, sur les cuvées. Traditionnel, classique, on n'est pas loin des coups de revient, en fait.
Ah oui.
Mais sur Gaillac, on n'a pas une très belle... On a, l'image est en train de remonter, mais on rame encore, on est en train de ramer. Hein, il faut, voilà. Et par contre, le souci, c'est qu'il faudrait que ça monte, parce que... on a une population de vignerons qui est vieillissante, et les gens pourraient investir dans les vignes à ces tarifs de vente-là, et il y a plus grand monde pour reprendre les structures.
Baptiste, une des manières justement de ne pas trop devenir habile, de ne pas devenir un faiseur, c'est peut-être aussi de mélanger les genres, enfin de changer de genre. Hein, on l'a vu, au départ c'était un blog, puis c'est devenu des romans. Dans tes romans même, il y a des divers genres de littéraires, tu peux mettre de la poésie, il y a l'album jeunesse, etc. Ben justement, j'ai prononcé le mot. Il me semble que celui qui te caractérise le plus, même si tu es un romancier, même si tu es devenu auteur jeunesse, c'est le mot de poésie. Et je voudrais savoir ce qui t'inspire ce mot-là. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse, que c'est la ligne de force de ton travail et que t'inspire ce mot-là?
Quand on écrit, c'est très difficile de lire des romans parce qu'on peut facilement se laisser contaminer par le style de l'auteur. Et la seule chose que j'arrive à lire quand j'écris, moi, c'est de la poésie. Et la poésie, elle m'accompagne depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça. Et elle m'accompagne régulièrement à des moments très difficiles de ma vie. Elle a toujours été une bouée de sauvetage, notamment quand j'étais étudiant en médecine. J'ai arrêté mes études quelques temps parce que je suis parti à Rome puis à Jérusalem parce que j'avais besoin de verticalité. On a été appelé avec le SAMU pour un enfant qui convulsait. J'étais à l'hôpital de Hoche et sa mère était l'enfant convulsé, sa mère s'est trompée au niveau de l'adresse, elle a inversé, elle devait dire 48 au lieu de 85, quoi, un truc aussi bête que ça, et au lieu d'arriver en 5 minutes, on a mis 15 minutes, mais quand on est arrivé, du coup, c'était trop tard, et moi, ça a été vraiment, je pense que tous les étudiants en médecine ont ce moment comme ça, où ils sont confrontés à la question ultime qui est pourquoi le mal existe, et pourquoi il frappe les innocents. Et cette question-là, personne n'a de réponse. Et je suis parti à Rome et à Jérusalem en espérant trouver dans la verticalité que promettent ces villes-là une réponse à mes questions. Et j'en ai trouvé aucune. Et la seule réponse que j'ai pu trouver, ça a été dans la poésie, dans les ouvrages que j'ai lus à l'époque. Et notamment, et c'est étrange, comment on rentre dans une librairie, on ne va pas bien, on se pose des questions. On prend un livre au hasard et c'est exactement le livre qu'il nous fallait au moment où il nous fallait pour nous permettre de mieux accepter le monde tel qu'il est. Et moi, à l'époque, j'étais rentré à la librairie en ombre blanche à Toulouse, et j'ai choisi au hasard, sans savoir pourquoi, un livre de Fernando Pessoa qui s'appelle Le Gardeur de Troupeau, et qui est un livre de recueil de poèmes que Fernando Pessoa a écrit en 24 heures. Il explique que ça a été le grand jour de sa vie, il était debout sous une forme d'exaltation totale, il a écrit et il jetait les feuillets au fur et à mesure qu'il écrivait, il ne savait pas d'où venait ça lui a été dicté, quoi, vraiment. Et il explique que ça a été le grand jour de sa vie, que plus jamais il sait qu'il n'aura de grand jour comme ça de nouveau dans sa vie, ce qui est terrible pour un auteur de se dire c'est fini ce que j'ai vécu ce jour-là, alors qu'il a écrit des choses
merveilleuses. Oui, je veux dire, notamment le livre de l'intranquillité.
Oui, une merveille.
Ouais.
Et donc, Le Gardeur de Troupeau m'a accompagné à Rome et à Jérusalem, et m'a accompagné bien mieux que les imams ou les rabbins ou les prêtres que j'espérais rencontrer pour obtenir des questions. Et ça raconte l'histoire tout le temps d'un paysan qui sort de chez lui un matin comme ça et qui se promène dans la campagne. Il ne fait que se promener, raconter ce qu'il voit, qu'il explique qu'il voit un papillon, qu'il voit un arbre, qu'il voit la rivière, et qu'il faut faire attention à ne pas être poète des choses. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'arbre soit juste un arbre, la rivière juste une rivière, et qu'on ne veuille pas, comme le poète serait tenté de le faire, d'y mettre à la fois des symboles ou, j'en sais rien moi, qui des fées, qui des ondines dans les rivières. Vous voyez, qu'il faut aimer les arbres et les rivières parce qu'ils sont là. Ce sont simplement des arbres et des rivières, et que c'est ça qui est magnifique. On dit oui, bon, pourquoi il me dit ça? Je vois pas. Enfin, c'est très bien écrit, c'est magnifique, mais pourquoi il me dit ça? Et puis le jour passe comme ça, puis il commence à faire froid, il explique à quel point aussi le froid, c'est merveilleux, qu'il faut aimer le froid pour ce qu'il est. Et je dis d'accord, le froid. Puis après, il y a des pages, évidemment, à la fin du recueil, des pages sublimissimes sur la mort, où il nous explique. Et il explique mieux que la Torah ou le Coran ou la Bible que le monde doit être plein de choses et que la mort fait partie de ce plein de choses et que si la mort n'existait pas, le monde nous mentirait et qu'on ne voudrait pas d'un monde qui nous monte. Et donc c'est vraiment une éthique de la responsabilité. C'est-à-dire, il nous parle d'adulte à adulte, il nous dit voilà, le monde ne nous ment pas, il nous traite en adulte. Et je crois que c'est au moment où j'avais toutes ces interrogations-là, cette poésie-là a été la meilleure réponse qu'on pouvait m'apporter à ce moment-là de ma vie, bien meilleure que tous les comment dire, l'inframonde que nous promettent les religions, quoi.
Et j'y vois un écho avec la joie et le reste, dans lequel il y a un passage, je me souviens bien, tu parles d'époux. Alors, ni toi ni moi ne pouvons être concernés, mais où tu dis, il faut accepter l'époux aussi, il faut aider les pères.
Alors, mais c'est, j'ai une bonne raison pour ça, c'est que du coup, je débarque à Rome, donc j'ai venu vivre ce drame en tant que jeune étudiant en médecine avec cet enfant qui était décédé, et décédé parce que sa mère l'aimant s'est trompée, et ça c'est quelque chose que je ne comprenais pas, je n'acceptais pas que par amour elle avait pu se tromper de numéro et que du coup causer de manière indirecte, entre guillemets, hein, la mort de cet enfant. L'absurdité totale de ce truc, je ne comprenais pas. Et donc je pars sur un coup de tête à Rome, et moi je suis persuadé qu'à Rome il faisait tout le temps beau. Et donc je débarque en février à Rome, en tongs et en short. Et donc j'ai très vite compris que c'était les films, il faut arrêter les films. Et donc je rentre dans la première fête qui est venue et je trouve une peau retournée, un truc magnifique qui tient très très chaud pour 50 balles. Et je dis vraiment, le genre de truc qui coûte 300 balles. Et quelques jours après, j'ai compris pourquoi j'avais payé que 50 balles. J'étais sous la douche et je vois des trucs sauter comme ça. Et je garde les poils là et ça grouillait le truc. Et là, j'attrape la peau, je retourne les poils à l'intérieur. Et ça grouillait de vermine, de je sais pas quoi, de si tu veux. Et donc j'ai compris pourquoi je l'avais payé que 50 balles. Mais, alors, c'est là que j'en parle dans le poème, c'est qu'il faut accepter aussi les coups, parce que les coups sont la trace que le monde ne ment pas. Ça a été...
La trace que le monde ne nous ment pas, ça fait deux fois que tu réalises ça.
Mais ça a été hyper important, parce que moi j'ai fait ce que tout le monde doit faire en ce moment-là, c'est que je me suis rasé des pieds à la tête, du coup. Et donc j'étais dans ce moment de ma vie où il y a eu vraiment un coup de hache, comme ça, dans ma vie. Et je me retrouve dans un miroir sans plus un poil sur le corps, sur le caillou, partout, partout, comme si on venait de me remettre au monde, quoi. Comme si j'étais un bébé, voilà, qui venait d'être remis au monde, avec toutes ces interrogations, avec ce poète portugais qui me racontait pourquoi je devais accepter ce qui s'était passé. Et bizarrement, ces poux ont permis de me faire sentir comme, voilà, remis au monde, en disant, voilà, est arrivé ce qui doit arriver, mais ton voyage continue, et tu dois apprendre que la vie, c'est aussi ça, le monde qui ne nous ment pas, et que tu vis dans un monde où les enfants aussi peuvent mourir.
Et c'est vrai que tout est consigné, là, tous les thèmes dont tu parles dans ce livre de poésie, la joie et le reste, aussi, qui parle aussi bien de Dieu, de la verticalité dont tu parles, qui parle d'amour, qui parle d'homosexualité, qui parle de, d'époux, oui, d'époux, en ce sens que le monde doit être accepté tel qu'il est.
Vous écoutez toujours la conférence Rencontre, l'ivresse des mots, avec Jean-Baptiste Beaulieu, écrivain humaniste, et Fabien Roufiac, vigneron à taille humaine.
Fabien, je voudrais savoir, moi, comment la relation avec les gens qui boivent ton vin.
C'est compliqué.
Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant.
Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais amené pour moi de façon très égoïste, mais je suis aussi amené pour les gens à qui je vends mon vin. Et alors, ce que j'essaie de faire dans mon métier, justement, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi être vigneron indépendant après avoir été coopérateur, c'est surtout aller au bout des choses et avoir des gens en face qui me disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors le problème, c'est qu'on on vous dira jamais, enfin, ou alors on dit mal les choses. C'est que quand c'est pas bien, si vous voulez, ça a un côté souvent... Il y a un côté souvent péjoratif et hautain. Et de temps en temps, on n'ose pas vous dire non plus que c'est pas bien. Donc il y a un peu de...
C'est difficile de cerner.
Il y a un peu de fausseté dans tout ça.
Tu fais des visites, tu organises des visites avec...
Oui, alors on va dire plutôt l'été, parce que après c'est une toute petite cave, c'est une ferme, ni plus ni moins. Avec un vieux bâtiment en pierre, un peu comme ça. Enfin, c'est plutôt en terre chez nous. Et avec des cuves.
Je reviens à ce que tu disais là. Quand tu as dit tu as parfois des jugements hautains, insuffisants, tu savais de qui ça c'est des gens comme toi et moi là qui sont là.
Oui, il y a des gens qui sont plus. qui voudrait vous apprendre à faire des assemblages, des gens, ah, on trouve de tout. Hein. Il y a des gens qui aimeraient, qui je pense que en tant que médecin, il doit avoir les mêmes choses. Il y a des gens qui veulent vous apprendre votre métier, quoi.
C'est souvent des hommes.
Ça, allez, ça commence. Ça commence. C'est un discours régulier qu'on a, Baptiste et moi, j'essaie de défendre malgré tous les hommes. Ça.
Ouais, bon, après. En général, il y a la fierté masculine. Je sais pas, la mauvaise fierté, on va dire.
Ah ben justement, ça va être le moment. Je voulais t'interroger, avant de passer la parole au public, sur un aspect dont on n'a pas encore parlé te concernant, le côté, alors peut-être que tu n'aimes pas ce mot, militant, engagé, je sais pas, tourne-le comme tu veux, à travers tes chroniques toujours sur France Inter, qui j'ai entendu une concernant la grossophobie par exemple, à travers tes livres. Est-ce que pour toi c'est une condition nécessaire de l'écriture, parce qu'après tout on peut écrire sans s'engager, sans s'engager socialement, je veux dire, est-ce que ça nécessite pas quand même d'avoir une vraie confiance en soi, et comment fait-on, il y a plein de questions autour de ça, mais je te fais confiance pour y répondre. Comment se fait-on, je me permets de poser la question, pour éviter le côté donneur de leçons?
Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager, mais dans le mauvais sens. Après, le côté donneur de leçons, je l'entends, ou le côté militant, je l'entends, mais en fait, je ne peux pas faire autrement, parce que déjà, je suis une grande gueule. Et puis surtout, je mets au défi n'importe quel homme, voilà, d'être médecin, c'est-à-dire de voir 25 personnes par jour, dont 60 à 70% des patientes, et de ne pas, au bout de quelques années, se poser vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur la quantité de privilèges qui sont les nôtres, simplement parce qu'on est né avec des testicules et un pénis.
Oui, c'est... là, tu parles de...
Ah, mais vraiment, moi, ça fait 10 ans que moi, j'adorerais qu'une femme rentre dans mon cabinet médical, me dise, voilà, mon mari est génial, il est adorable, il fait sa part du boulot, et en plus, il me rend heureuse de tous les aspects de ma vie, et je vais vous donner 25 euros pour vous avoir dit ça. Ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais, ça, Brice. Après, c'est vrai que, je reconnais que c'est un parti plus, je travaille avec des premiers qui donnent aide aux femmes victimes de violences conjugales, et je reconnais que c'est comme une passoire, du coup. Au bout d'un moment, on les voit autrement. Je reconnais que ce parti pris, je l'ai, et je l'assume, mais en même temps...
Non, mais tu as raison, absolument. Mais au-delà, ton engagement va bien au-delà de la juste cause des femmes. Hein, il y a un engagement pour le regard sur l'homosexualité,
C'est le même combat. Ça, c'est le même combat, bien sûr. L'homophobie, c'est juste du sexisme. Hein. C'est un des visages du sexisme. Hein. Je ne peux pas te dire autrement que je ne peux pas faire autrement, dans le sens où, en tant que médecin, quand on voit ce qu'on voit, ne rien dire, c'est être complice finalement d'un système. Et moi, ce que je vois, c'est que dans mon cabinet médical, c'est toujours les femmes qui connaissent les dates de naissance de leurs enfants, qui connaissent les vaccinations de leurs gosses, qui connaissent les allergies de leurs gosses, qui connaissent tout. Et quand j'ai un mec, il dit attendez, j'appelle ma femme. C'est comme ça tout le temps, malheureusement. Je suis désolé, Brice, mais je t'assure. Et tu peux interroger n'importe quel soignant s'il y a des infirmières.
Non, mais tu as absolument. Non, mais je ne vais pas te dire.
Elles diront la même chose.
Tu penses que les choses vont s'améliorer?
Je sais pas, mais c'est pas gagné. La dernière fois,
T'es pas optimiste du tout?
Non, la dernière fois, j'ai un patient qui vient pour un PAI, tout ce qu'on appelle un protocole d'accueil individualisé. Quand votre enfant est très allergique à un produit, pour faire des papiers pour aller à l'école en cas de crise, en cas de grosse crise, comment réagir à l'école. Donc c'est nous qui les remplissons. Et donc je voulais bien le remplir, mais il faut que je demande c'est quoi l'allergène. Il fait j'appelle ma femme. C'est les questions de propre fils. Et non, mais on rigole, mais ça veut dire que c'est jamais lui qui fait à manger à la maison, qui gère rien.
Oui, là c'est sûr.
Voilà. Mais ça, des exemples comme ça, j'en ai plein. Et je reconnais qu'au bout d'un moment, tu peux plus les voir.
Est-ce que tu te retrouves. Je pose la question, je connais la réponse. Non, elle s'adresse, pardon, à Baptiste. J'allais dire comme Fabien. En proie à des. Voilà, il a parlé de ces gens qui se la pètent en disant voilà, je vais t'expliquer le vin. Est-ce que toi, tu te retrouves dans ton engagement face à des critiques farouches, surtout sur ce combat. Et comment tu vis ça, toi?
Bah, toute action génère une réaction, ça c'est sûr.
Et notamment sur les réseaux sociaux, non, j'imagine?
Oui, que... je suis moins présent parce que j'arrive dans une période de ma vie où je veux devenir papa. Mmh. Et donc je veux vraiment m'éloigner un peu de cette violence-là. J'ai envie de créer un nid, voilà. Et les réseaux sociaux sont extrêmement violents, mais parce que les gens disent sur les réseaux ce que vous n'oserez jamais dire dans la vraie vie, quoi. C'est tellement facile quand on est derrière un écran avec un nom anonyme qui ne nous correspond même pas, de pouvoir vomir ou de se vider la poche à venin sur la première personne qui passe à la radio venue, quoi. Voilà. Je le prends plus trop pour moi maintenant, mais je me dis, les gens sont... qui agissent comme ça, ça doit être très malheureux quand même.
Vous êtes bien d'accord. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez surtout pas.
Ouais.
Madame.
Est-ce que vous accepteriez de me prendre dans votre patientèle?
Alors, c'est une excellente question parce que, comme beaucoup de médecins aujourd'hui, on n'accepte plus personne malheureusement. Et pourtant, je suis en plein centre de Toulouse, donc je peux vous dire que le désert médical, maintenant, ça touche aussi les grandes agglomérations. Et parce que les gens, souvent, s'imaginent que c'est au fin fond de la Creuse. Mais le simple fait, maintenant, d'avoir rendez-vous dans une semaine avec votre médecin traitant, ça, c'est du désert médical. Le fait d'avoir rendez-vous avec un ophtalmo dans un an, ça, c'est du désert médical. Le fait de tant de consultations disponibles, c'est-à-dire dans les années 80, votre médecin, il pouvait vous accorder une demi-heure. Maintenant, on estime que c'est entre 6 minutes 30 et 7 minutes 30, la consultation. Ça, c'est du désert médical. Moi, j'aimerais bien passer plus de temps avec mes patients, mais quand on a 20 personnes en salle de l'attente, oui, on ne peut pas faire autrement, quoi.
Je voudrais savoir, vous êtes artiste, si vous avez déjà une idée d'écriture qui vous trotte et qui vous envahit le cerveau.
Non, je viens de terminer mon prochain roman, du coup, qui devrait sortir en octobre. Et ce sera un roman entièrement dédié à un thème qui n'est pas beaucoup abordé en littérature, qui est celui des larmes. Et donc, c'est un long monologue d'un médecin qui n'arrive plus à pleurer, qui va parler de son quotidien. Et le seul suspense du livre, mais je crois que j'arrive bien à le tenir, c'est est-ce qu'il va arriver enfin à pleurer à la fin du livre ou pas. Et donc, mon éditrice est ravie, elle a beaucoup aimé le bouquin. Je crois que c'est important parce que le regard de l'éditeur, c'est fondamental. Et donc, on va partir comme ça sur ce thème-là qui, pour le coup, je pense, est un thème universel parce qu'il y a combien de personnes dans cette salle qui ont peut-être du mal aussi à pleurer, et ça fait tellement bien parfois de lâcher un petit peu.
Et là, pour le coup, si je peux me permettre, mais je peux me permettre puisque tu m'en as parlé toi-même à Collioure,
ouais.
C'est le statut de l'homme qui est plutôt défavorisé.
Ah oui,
on ne nous autorise pas, nous autres, à pleurer. Moins.
Vous savez, il y a des chiffres de suicide qui montrent que les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Oui. Je pense notamment parce qu'on apprend aux hommes à ne pas confier leurs émotions et que donc ils n'ont qu'une solution. Il n'y a pas d'alternative, c'est soit ils ne vont pas bien, soit ils vont bien, mais s'ils ne vont pas bien, ils prennent un fusil, ils vont beaucoup moins aller pleurer ou parler ou exprimer leur ressenti. Mais ça, malheureusement, alors c'est là que peut-être on va divaguer avec Chris, c'est aussi une forme de... Enfin, c'est une résultante du sexisme qui veut cantonner les hommes voilà, on n'est pas tous des bûcherons canadiens, ouais. Et les femmes ne sont pas toutes des petites choses fragiles non plus, quoi.
Il faut
se méfier de ces injonctions, en tout cas, je crois. Voilà.
Une toute dernière question, peut-être. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre autour des bouteilles et des livres. C'est pas mal comme programme.
Merci à tous. Merci à tous pour votre soutien.
Si vous voulez plus d'informations sur l'ivresse des mots, rendez-vous au www.gaillac-groyer.fr. La prochaine rencontre de l'ivresse des mots est prévue le 12 février à Coufouleux à 11h à la salle Nelson Mandela de l'école Jean-Louis Étienne, avec l'autrice Isabelle Dézéchiel et le vigneron gaillacois Domaine Inventis.